I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Women of the Seas. Récits d'aventure en mer, portraits de femmes au destin incroyable.
Sur cette épave des Anglais, c'était fantastique. D'abord parce que c'était beau. Il y avait partout des morceaux de verre irisés. Parce qu'en fait, le verre contient des oxydes métalliques, naturellement. Et ces oxydes métalliques, en s'altérant, ils donnent au verre immergé ces belles couleurs, rouge, bleu, vert. Ça illuminait le fond, des étincelles de couleurs un peu partout, de ces irisations de verre.
Marie-Pierre Jezégou, 65 ans. Archéologue sous-marine. Embarquée sur l'André Malraux du Draz et de nombreux autres petits bateaux de plongée en Méditerranée. À la découverte d'épaves englouties et trésors oubliés.
J'ai travaillé sur une quarantaine de sites archéologiques qui n'étaient pas tous des épaves, mais sur la quarantaine de sites archéologiques, au moins 30, 33, 34 étaient des épaves. Cette année-là, ça a été la révélation, parce que j'ai découvert que l'archéologie existait aussi sous l'eau. Je ne le savais pas du tout. Et je vois que le Drazm propose des stages de formation à la plongée sous-marine, puis dans la foulée à l'archéologie sous-marine, à des étudiants qui en feraient la demande. Le DRASM, c'est le département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines. C'est comme ça que j'ai passé mes deux premiers diplômes de plongée, dans la foulée, en 3 semaines. Je suis arrivée au DRASM, je suis montée sur l'archéonote, le prédécesseur de l'André Malraux, et là j'ai découvert concrètement la plongée archéologique. Et là, c'était fini. Je n'ai plus eu envie de changer de voie. Donc le DRASM, c'est un service à compétence nationale qui dépend directement du ministère de la Culture, mais qui est installé à Marseille depuis sa création en 1966 par André Malraux, tout simplement parce que c'est à Marseille qu'a débuté l'archéologie sous-marine avec le commandant Cousteau sur les épaves du Grand Congoué, juste au lendemain de la guerre. De Marseille, nous travaillons sur toute la France et les dom-toms. Ce qui fait que chacun des archéologues plongeurs est donc en charge d'une façade littorale qu'il doit gérer d'abord sur le plan administratif, parce que nous sommes surtout un centre administratif de gestion des collections archéologiques issues de la mer ou des fleuves, et nous sommes aussi un centre de recherche, mais la mission principale, ce n'est pas de faire de la recherche, c'est vraiment de gérer les biens culturels maritimes, c'est-à-dire tous ces vestiges, épaves ou autres. J'ai eu la chance d'intervenir, et c'est pour l'instant la plus belle fouille sous-marine que j'ai faite, sur une épave à cargaison de verre du début du 3e siècle de notre ère, qui était à 56 mètres de profondeur, des palantines donc, et avec une cargaison de matières premières vitreuses. Or, la cargaison répondait totalement à des questions que se posaient les collectes terrestres. Parce que les collectes terrestres qui travaillaient sur le verre, quand ils fouillaient des ateliers de verriers, ils s'apercevaient que la composition chimique de leur verre, très souvent, était identique que l'atelier de verrier se trouve en Espagne, en Germanie, en Gaule. Donc, c'est quand même très bizarre, parce que les sables, eux, sont de composition chimique différente, suivant les endroits où ils se situent. Donc, ils ont commencé à imaginer la seule explication possible, qui était qu'en fait, on importait la matière première vitreuse de quelque part, et qu'elle était ensuite achetée par les verriers de tout le monde occidental pour la fabrication du verre. Lorsque on a trouvé dans la zone méditerranée orientale ce qu'on appelle des ateliers primaires, donc des ateliers qui fabriquaient des blocs de verre brut, et pour affirmer et valider l'hypothèse, il ne manquait plus que le stade intermédiaire, c'est-à-dire de trouver un transport de verre dans une épave, puisque c'était pondéreux, et que les pondéreux, ils n'allaient pas les transporter du Liban à Rome ou à Narbonne en carriole. Ça ne pouvait voyager que par la mer. Donc, pour confirmer l'hypothèse, tout le monde attendait depuis une vingtaine d'années qu'on trouve une épave avec une cargaison de verre primaire. Et quand cette épave a été découverte par un plongeur de brusque, j'ai pris la fouille en main pendant 4 ans. Que le verre. C'était du verre partout. Mais le verre était quand même partiellement recouvert de sédiments. On avait ces reflets brillants à travers le sable. C'est-à-dire qu'il fallait un peu souffler un peu le sable, le dégager avec la main pour s'apercevoir de ce qu'on avait. Sinon, on voyait que c'était du verre, mais on n'identifiait pas ce que c'était. Après, il fallait faire intervenir quelques appareils pour retrouver le degré d'enfouissement du site, puisqu'il y avait quand même des zones où il n'était pas apparent, et le verre n'était apparent qu'à quelques endroits. Il y avait d'autres endroits où c'était entièrement recouvert. Donc la première chose à faire, c'est quand même déjà de déterminer quelle est l'extension du gisement. Est-ce que c'est juste trois morceaux de verre qui sont tombés d'un bateau qui n'a pas fait naufrage, ou est-ce que c'est tout le bateau qui se trouve à cet endroit-là? Donc en fait, oui, là, sur l'épave des Anguilles, à la première plongée que j'ai faite, je n'avais pas les instruments, je n'ai pas travaillé tout de suite. La première plongée, c'était une plongée d'exploration. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis collée à ras du sol, ce qu'on ne fait pas quand on fouille. Hein, c'est quand on fouille, on travaille en gardant les pieds en l'air, on ne se pose pas au fond pour ne pas déplacer les objets, on est en position, c'est pour ça qu'on ne peut pas plonger en pied lourd. Parce qu'au pied lourd, on est dans l'autre position, on a la tête en haut, les pieds en bas. Là, on a la tête en bas et on est en position quasi verticale, comme suspendu au bout d'un fil. Et on ne se pose pas, on doit gérer la quantité d'air dans la stab pour être en apesanteur totale. Mais là, j'ai fait le contraire, là, je me suis collée au fond et en fait, j'ai regardé sur un plan rasant pour voir le dénivelé de la surface. Et en fait, ce dénivelé de la surface, qui était très peu haut, parce qu'à la différence des épaves avec des amphores, j'avais pas un grand tumulus d'amphores qui fait souvent 3-4 mètres de haut. Bon, ça, les plongeurs, ils peuvent pas le louper. Là, j'avais un petit monticule, comment le qualifier, oui, une petite bosse sur une dizaine de mètres de longueur. Donc, j'ai vu ce dénivelé, donc ce renflement, voilà, un renflement sur une douzaine de mètres de longueur, donc on l'a mesuré tout de suite avec mon coéquipier, et on a mesuré comme ça la zone où se trouvait l'épave, une douzaine de mètres de long sur 6 mètres de large, qui correspondait en fait au déversement du bateau. Mais après, donc lorsqu'on décide qu'à partir de cette information qui est quand même très, très peu précise, ça me donne l'indication qu'effectivement cette forme correspond à un bateau, donc ça peut être une épave. À ce moment-là, au moment où je fais l'expertise, j'enchaîne pas sur la fouille. Hein. Je suis d'abord allé faire l'expertise pour voir qu'est-ce que m'avait signalé ce monsieur et si ça méritait vraiment d'être fouillé. Donc à partir de ce moment-là, je fais une opération très légère où je vais dégager une petite zone. C'est là qu'en dégageant cette petite zone, je m'aperçois que j'ai à la fois du verre en matière première et de la vaisselle. Et à ce moment-là, on arrête tout. c'est beaucoup trop important, on ne va pas continuer à faire des petits sondages partout. Je m'arrête et je retourne au bureau et je planifie pour l'année d'après une opération. Il faut réunir maintenant le matériel qui est spécifique à chaque opération. En gros, on va retrouver des GPS pour positionner les découvertes au fur et à mesure qu'on les fait, des petits flotteurs pour baliser en surface la découverte au fond, et puis surtout notre principal outil qui est l'aspirateur à sédiments. L'aspirateur à sédiments qui va être alimenté soit par de l'air, soit par de l'eau, c'est-à-dire qu'on envoie soit de l'air à moyenne pression, 8-10 bars, soit de l'eau sous pression en faisant passer de l'eau dans des motopompes sur le pont qui nous envoie à travers des tuyaux de l'eau au fond, qui vont alimenter un aspirateur en faisant une dépression à l'endroit où arrive l'eau sous pression. Donc on installe nos appareils en fonction des zones qu'on veut fouiller. Ça veut dire qu'il faut délimiter les carrés de fouille parce qu'une épave ou un site archéologique, ça fait quand même plusieurs mètres de long, des bateaux qui font 30-40 mètres de long. Donc on choisit de travailler dans une zone. Et à ce moment-là, on plonge comme des plongeurs sportifs. C'est très rare qu'on plonge autrement. On plonge en scaphandre autonome parce que c'est comme ça qu'on est le plus mobile. Parce que comme on dégage ce qu'on appelle une couche, donc un niveau de vestiges qui sont tous au même niveau, et qu'on veut observer, une fouille consiste à observer les interactions entre les objets, entre eux, les connexions et les interactions. Et donc, le but, c'est de ne pas les déplacer, ces objets. On les dégage avec l'aspirateur à sédiments. Ensuite, on les mesure. On en fait des photos ou même de la photogrammétrie qui permet de faire un enregistrement numérique en trois dimensions. Ça, c'est un outil qui n'existait pas il y a 30-40 ans, mais qui se développe et qui maintenant est pratiquement systématique sur toutes les fouilles. Donc, on fait des passages photos à la même hauteur par rapport aux vestiges. Et ces photos sont ensuite montées les unes aux autres. On met ces photos dans un ordinateur, on fait tourner l'ordinateur un certain nombre d'heures, et ça nous sort notre site en 3D. On peut se promener dedans comme on veut, on peut travailler dedans, on peut faire des mesures. Si ce n'est quand même que quand on n'a pas vu quelque chose et qu'on ne l'a pas compris au fond, ce n'est pas vraiment sur photo qu'on va le comprendre. On peut faire des mesures sur ces photogrammétries, mais on peut difficilement comprendre quelque chose. La compréhension, elle doit avoir eu lieu au fond. Et puis ensuite, on va démonter cette couche qui va être bien souvent une cargaison. En fait. Le but est de choisir quelle zone on va fouiller. Donc, commencer à délimiter une zone en bordure de l'épave parce qu'on voulait comprendre en fait ce qui était dans le bateau et ce qui était déversé à l'extérieur parce que le bateau s'était couché sur un côté. Et donc il fallait trouver la fin du bateau et le début du déversement. Donc là on installe les aspirateurs à sédiments et puis on commence à démonter. Alors la première couche elle est très complexe à démonter parce que ces blocs de verre qui ont été jetés comme ça en tas dans le bateau, avec le temps, ils se sont agglomérés les uns aux autres. Alors, c'est coupant, donc il faut munir les plongeurs de gants spéciaux pour qu'ils ne se coupent pas. Et ensuite, comme c'est aggloméré, bien souvent, on ne trouve pas les limites entre les blocs. Donc, on est obligé de les recasser pour les démonter, les mettre dans un panier. Donc, on va démonter cette couche de verre et puis on va porter les verres dans un panier et après, on va remonter avec des ballons le panier à la surface pour faire les études, les analyses. Mais on s'est aperçu qu'à côté des blocs de mer, on avait un endroit du bateau qui est un endroit très stable. C'était vers la zone de cabine où on a retrouvé toute la vaisselle de bord, les écuelles dans lesquelles ils prenaient leur repas, les amphores dans lesquelles ils stockaient les réserves. À cet endroit-là, on a trouvé non pas seulement des blocs de verre, mais de la vaisselle de verre. Et là, c'était tout aussi difficile en fait à fouiller, ce n'était pas la même difficulté, mais c'est que là, nos petits objets, donc on avait des verres à piquer, un peu comme des flûtes à champagne, mais très grands, hein, de 20 cm de haut, tout compris. Sauf que ce n'était pas conservé sur 20 cm, mais souvent on avait le pied, la tige et la base de la coupe qui étaient conservées. Et ce qui était assez frustrant en fait, c'était qu'on les voyait, ils étaient magnifiques, et au moment où on allait les prendre délicatement dans les mains pour les mettre dans des petites boîtes spéciales, on avait fabriqué des boîtes pour pouvoir conditionner les objets en verre à l'intérieur de ces boîtes sans risquer de les casser pendant la remontée. Puis ceux-là, ils n'étaient pas remontés avec un panier et un ballon, hein. Ils étaient remontés à la main. On les avait à la main. Donc, gérer la remontée, gérer les paliers, et on avait quand même, on n'était pas tout à fait à la main, c'était dans un filet qu'on accroché à la ceinture pour se garder les mains libres, mais voilà, on les avait sur nous pour éviter de trop les secouer. Mais le problème, c'est que quand on les voyait, ces bols, ces verres à pied, on les prenait dans les mains, et là, le verre, étonnamment, n'était plus dur. Le verre était mou. De l'altération, c'était des verres très fins, hein. La vaisselle de verre dans l'Antiquité romaine, elle est d'une finesse, c'est 2-3 mm, pas plus. Et bien, on avait une sorte de pâte qui nous restait dans la main et on perdait la forme. Donc, au bout d'un moment, il a fallu qu'on change notre stratégie et on a décidé de sacrifier des verres pour en sauver d'autres. Comment a-t-on fait ? Eh bien, sur la couche archéologique, on a découpé des parpaings de sédiments parce que le sédiment qui englobait ces verres était en plus un sédiment très dur. On n'était pas dans du sable ou de la vase molle. Et bien là, on a pris des parpaings de 40 sur 40 cm avec les objets en verre dedans. On les a remis dans des grandes caisses, dans le panier qui est remonté par le ballon à la surface. Et là, on a fouillé notre sédiment à terre pour dégager en laboratoire, au scalpel, minutieusement. Et les objets, dès qu'ils étaient dégagés du sédiment, partaient aussitôt en stabilisation et en restauration. Et ça nous a permis de récupérer une très belle collection de tous ces objets. Aussi de la vaisselle de verre manufacturée et du verre à vitre, dont des vitres rondes pour fermer les oculi, qui sont les orifices circulaires dans les voûtes des thermes ou des basiliques, dans les grands bâtiments. Voilà, il y avait des ouvertures circulaires et qui étaient fermées par des vitres également, et ces vitres avaient une forme de chapeau melon. Mais je n'avais que l'emplacement de la cargaison dans le bateau, je n'avais pas le bateau. Et avec ces phénomènes de déversement, parce que les épaves, elles ne sont pas sympas avec les archéologues, c'est très rare qu'elles arrivent pile, bien verticales au fond, posées sur la quille, qu'elles s'ensablent très vite et que l'archéologue n'a plus qu'à... le pont disparaît, les superstructures disparaissent, on n'a même plus à s'embêter avec le panneau de cale, on arrive directement dans la cargaison. Oui, ben ça, c'est très rare. La plupart du temps, les bateaux arrivent n'importe comment au fond. Et donc, c'est à nous de savoir où est l'épave sous la cargaison. Et là, j'avais quand même à chaque fois des durées d'opération très courtes et je savais qu'on ne me laisserait pas passer 10 ans de ma vie sur cette épave. Et je voulais arriver au bateau. Et donc, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand j'ai décidé d'implanter mon sondage dans une zone donnée en me disant « je serai à la limite entre le déversement et l'intérieur de la cale ». Et ça, c'était un pari fou, c'était l'intuition. Mais c'était rien d'autre, ça reposait sur rien d'autre. Que la perception que j'avais eue des reliefs au fond, et à condition qu'à 56 mètres, je ne sois pas complètement narcosée, ça aurait pu être aussi un effet de la narcose. Bon. Et donc, on implante le sondage, puis une fois que le sondage est implanté, il faut rester fouillé à cet endroit-là. On n'a pas bougé, parce que toutes les données qu'on a positionnées, il faut qu'elle reste, voilà, on ne va pas changer ensuite l'extension, on ne va pas étendre davantage le sondage. Donc, on fouille les différentes couches de cargaison, et quand apparaît des choses qui ne sont plus du verre, mais qui ressemblent à du bois, on se dit, oh, eh ben, ça doit être le bateau. Et là, ben, on continue à nettoyer soigneusement dans ce sédiment très dur, donc ça ne va pas très très vite. Et à un moment donné, on voit très bien se distinguer des membrures de bateau, du plancher de la cale du bateau. Et là, on se dit, je suis à l'intérieur du bateau et je ne suis pas sur le déversement. Et j'étais effectivement exactement sur la zone où je voulais être, en partie à l'intérieur, en partie à l'extérieur. Et j'avais donc la dernière virure de bordée conservée, et puis tout le bateau qui partait devant moi et qui se prolongeait. Et puis ensuite, il a fallu fouiller la coque du bateau. Donc c'est la même chose, mais on a enlevé toute la cargaison sur une zone donnée, et à ce moment-là, on accède aux éléments de la charpente du navire. Et puis là, ben, on essaie de comprendre quels sont les assemblages, quelles sont les formes. En procédant à des coupes, on dessine les pièces. Après, il faut compenser les déformations, parce que les bateaux, quand même en faisant des coupes les plus précises au fond, ils sont quand même très déformés. Donc ça va être le travail des dessinateurs ensuite qui vont reprendre toutes ces coupes, qui vont lisser les déformations. Et puis, l'architecte, il va reconstituer les lignes d'eau du bateau, le plan des formes. Et puis de là, on aura, à partir du plan des formes, avec des modèles numériques, on va reconstituer des maquettes numériques du bateau tel qu'il était au fond. Sur les ambiers, pour aller plus vite, donc comme on faisait qu'une plongée par jour et qu'il fallait quand même que le travail avance, j'ai fouillé cette épave pendant 2 mois par an, pendant 3 ans. Raison d'une plongée par jour quand il faisait beau. On s'arrêtait dès qu'il y avait du mistral, on s'arrêtait dès qu'il y avait du vent sud-est. On n'avait aucune possibilité de travailler, il fallait vraiment qu'il fasse calme plat. Donc je fouillais en juin et en septembre, 2 fois 3 semaines en fait. Et c'était compliqué hein, parce que c'était profond. On n'avait droit qu'à une plongée par jour par personne de 20 minutes. On avait 1 heure, tout compris avec les paliers, ça durait 1 heure. Donc 20 minutes, ça voulait dire le temps qu'on descende et le temps qu'on surveille la montre 2 minutes avant la fin de la plongée, on avait 1 quart d'heure de travail chacun 1 fois par jour. Donc ça voulait dire une énorme équipe. Pour l'épave des Ambiers, il me fallait des plongeurs que je connaissais tous personnellement ou qui m'étaient recommandés par quelqu'un que je connaissais personnellement et en qui j'avais totale confiance, vu la difficulté liée à la profondeur. J'étais 20 à peu près, ça faisait 5 palanquées avec une organisation, le bateau principal, le bateau de secours, l'oxygène pour la décompression aussi sur le bateau de secours, parce que si un plongeur était pris par le courant et qu'il n'arrivait pas à remonter le long du bandeur prévu pour la remonter, ben, il risquait de ne pas trouver les installations sous le bateau pour sa décompression à l'oxygène pur, puisque les derniers paliers, on les faisait à l'oxygène pur à 6 mètres. Sinon, si on avait dû faire un palier à 3 mètres, alors on rajoutait une demi-heure de plus sur la décompression. On dort bien la nuit. Ça vaut tous les somnifères de la création. On n'avait pas trop de courant au fond. On avait juste le courant qui allait bien pour évacuer les sédiments ou dès qu'on soulevait un petit peu de saleté, ça partait dans le courant. Mais on n'était pas gêné par un courant très fort au fond qui nous aurait déstabilisé. En revanche, c'est quand on remontait qu'on trouvait parfois, suivant la météo, notamment après Mistral, on allait trouver du courant vers les 15-12 mètres. Et donc là, ça rendait un petit peu difficile l'accès aux remontées le long d'un pendeur. Hein. Mais à un moment donné, il fallait lâcher ce pendeur parce que l'oxygène se trouvait sous le bateau et on avait une distance de pas très grande, mais de 4-5 mètres qu'il fallait faire. Et là, il fallait parfois la faire contre le courant, même si le bateau essayait de se positionner au mieux pour nous faciliter la vie. De temps en temps, le bateau, il n'était plus vraiment là où il était censé être et les 4 mètres se transformaient en une dizaine de mètres à faire à la palme à contre-courant. C'est pour ça qu'on avait l'embarcation de secours si jamais on n'y arrivait pas. Donc c'était quand même assez lourd à gérer, ça demandait beaucoup de vigilance et puis des gens très compétents, parce qu'il ne fallait pas être narcosé au fond, il fallait immédiatement opérationnel en arrivant, savoir quoi faire. Voilà, donc c'était pas simple, mais c'était une fouille extraordinaire. Et puis surtout, on a fait la démonstration qu'effectivement l'hypothèse des collègues, elle était juste. Nous avions beaucoup de chance parce qu'à 50 mètres, on ne voyait pas les rouges et les jaunes, bien sûr, il fallait éclairer, mais on voyait très clairement les objets se dessiner sur le fond. On voyait nettement les formes. Alors, on utilisait relativement peu d'éclairage, c'était, sauf quand on faisait des campagnes photos. Donc là, le photographe, lui, descendait avec un éclairage pour éviter de travailler au flash, parce que le flash a des inconvénients. Ça va faire des lumières fortes sur certaines zones et laisser des zones dans l'ombre. Et quand on travaille au grand angle, c'est très difficile d'avoir une couverture par le flash de l'angle de prise de vue de l'appareil photo. Donc du coup, les caméramans qui me faisaient les photos travaillaient avec des équipements, soit un éclairagiste et le photographe, soit à partir du caisson photo, un grand bras et une lumière qui éclairait la zone que le photographe photographie. Alors évidemment, celui qui avait la chance d'accompagner le photographe, c'est celui qui avait la plus belle vue du fond, parce que lui, il avait toutes les couleurs. Sur cette épave, on travaillait donc 4 par 4, mais par palanquée de 2. C'est-à-dire qu'on partait à 4, on remontait à 4, mais on était en binôme. Et à l'intérieur du binôme, chaque plongeur était responsable de son coéquipier, mais on n'était pas responsable de l'autre binôme. Et donc l'autre binôme, on pouvait ne pas le voir. Parfois, ils n'étaient pas très loin de nous, mais parfois, ils travaillaient sur une autre zone et on ne les voyait pas. Mais la sécurité de chaque plongeur était assurée par son coéquipier. Et là, on ne se quitte pas. Il y a interdiction de se quitter. C'est-à-dire que même quand on travaille aux aspirateurs à sédiment, les deux, alors soit on a un aspirateur pour deux, soit on a un aspirateur chacun, mais les deux aspirateurs sont de telle sorte que les deux plongeurs soient toujours en visuel. On faisait des manips assez lourdes. Il fallait qu'on rapproche les deux aspirateurs à sédiment l'une de l'autre. On les amarre ensemble et ensuite on devait mettre un parachute et les faire partir à la surface. Mon partenaire a manqué d'air. Il s'est passé quelque chose pendant qu'il allait chercher la suceuse et en fait c'est une fuite à son direct système. Et comme il était dans une manip qui demandait beaucoup d'efforts, il n'a pas regardé son manomètre. On était en plus en début de plongée, on y va, on respire. Et comme c'était quand même un plongeur professionnel, lui, c'était un scaphandrier A, donc il ne s'est même pas affolé. Il est arrivé au pied de l'endroit où on devait parachuter la suceuse. Il a posé sa suceuse, il a pris son manomètre, il ne m'a même pas fait « j'ai plus d'air ». Il a pris son manomètre, il me l'a mis sous les yeux. Mais ça, c'est une procédure auquel tu n'es pas habitué. 56 mètres en plus, je venais moi aussi de faire des efforts, je regarde le manomètre, qu'est-ce qu'il veut me dire? Puis tout d'un coup, ça fait tilt, l'aiguille était à zéro, mais lui, il était toujours si calme. Ah, j'ai compris, j'ai attrapé le deuxième détendeur, je l'ai mis dans la bouche, donc il a fallu qu'on remonte à deux sur une seule bouteille, sachant qu'à deux sur une bouteille, on ne faisait pas les paliers. Et qu'on a eu de la chance parce qu'on n'était pas du tout à côté du bout de remontée quand ça s'est produit. Mais comme l'eau était tellement claire, pendant la remontée, on a aperçu au loin, au loin, au loin, le bout de remontée sur lequel il y avait tout le système d'oxygène. Donc on a fait toute notre remontée de 56 à 20 mètres à peu près, en respirant, on en avait deux détendeurs. J'avais filé mon détendeur, donc heureusement on ne faisait pas le va-et-vient quand même. Mais on était à deux sur ma bouteille et arrivé à 20 mètres, on a vu au loin le pendeur, donc on y est allé, on a réussi à faire le palier à 15, le palier à 12 et le palier à 9, à l'air, toujours. Et quand on est arrivé au palier à 6 mètres, lui, il a pris le détendeur d'oxygène, moi j'ai pris l'autre détendeur d'oxygène, et voilà. Mais sinon, on faisait surface sans avoir fini nos paliers et on les finissait au caisson.
C'est auprès de l'île de Rio, au sud-est de Marseille, que la Calypso avait rendez-vous. Comme chacun le sait aujourd'hui, commandant Cousteau, est spécialement équipé avec l'aide de la marine et de l'éducation nationale pour les recherches sous-marines. En effet, les rendez-vous de la Calypso ne sont généralement pas en surface, et celui-ci n'échappait pas à la règle. Les hommes grenouilles ont plongé munis d'une caméra de télévision sous-marine. Grâce à elle, le commandant Cousteau suivait sur l'écran les efforts de ceux qui exploraient à 40 mètres de fond un navire grec coulé voici 2200 ans avec sa cargaison de vin et de poterie. Expérience d'une très grande portée puisque pour la première fois au monde, officiellement, une recherche sous-marine était suivie et dirigée de la surface. Et c'est ainsi que se dégage à la fois l'épave et l'histoire d'un drame vieux de 2 millénaires. Un navire marchand venu de Délos, chargé de vin et de poterie, pris par la tempête, avait sombré sur les récifs de l'île de Rio. Pour la première fois, un travail méthodique d'archéologie sous-marine permettait de ramener en 1250 plongées 7000 amphores, d'innombrables poteries, les ancres et le matériel de bord dont vont s'enrichir les musées d'Europe. Certaines amphores étaient restées intactes, bouchées, cachetées. Le vin y était encore, en lit et en poussière bien entendu. Vous pensez, 2000 ans de bouteilles.
André Malraux, un bateau de 36 mètres de long, 9 mètres de large, avec un pont, une plage arrière modulable. Donc, suivant les missions, on peut embarquer des conteneurs avec du matériel différent, ou on peut par exemple installer un conteneur avec du matériel de plongée pour plonger en pied lourd. On peut faire intervenir des scaphandriers en pied lourd, donc ils arrivent avec leur installation qui n'est pas du tout la nôtre. Pied lourd, c'est un plongeur qui n'est pas autonome du tout, puisqu'il est relié à la surface par une glaine de tuyaux. Et dans ces tuyaux, il y a de la radio, il y a les différents gaz qui arrivent suivant la profondeur à laquelle on se trouve et les différents mélanges qu'on respire. Et puis, il y a le câble de traction aussi qui est dans cette glaine. Sinon, donc, nous, on travaille soit avec des plongées à l'air, soit avec des plongées au nitrox. Et le bateau est équipé de différents compresseurs, de bouteilles tampons qui nous permettent de générer les gaz au pourcentage, au mélange que l'on veut, hein, quand on est au nitrox, adapté à la profondeur à laquelle on va plonger. Donc jusqu'à 40 mètres, en fait, on utilise du nitrox en diminuant bien sûr le pourcentage d'oxygène plus on descend profond, mais c'est très sécurisant, c'est beaucoup moins fatigant et on a moins de risque de narcose puisqu'on diminue la quantité d'azote. On a 4 banquettes qui permettent d'accueillir 3 plongeurs, ce qui permet d'équiper en fait 12 plongeurs en même temps si on voulait le faire. Donc c'est très confortable parce que du coup, on s'assoit sur le banc après avoir enfilé sa combinaison et là, on n'a plus qu'à mettre directement sa bouteille et sa stab qui sont déjà en place, qui ne bougent jamais. Quand on finit notre plongée, on se déséquipe en laissant la stab, la bouteille et on enlève juste un détendeur. Comme ça, le gonfleur va venir et va gonfler toutes les bouteilles une par une. Et ensuite, on revient, on prend son mélange si on est au nitrox, on vérifie sa pression partielle. Ensuite, on remet son deuxième détendeur, on s'assoit devant sa bouteille, on s'équipe. On n'a aucune manutention de bouteille. C'est ça qui est quand même assez génial. Ensuite, avec la bouteille sur le dos, on a 4-5 mètres à faire sur le pont pour aller se mettre à l'eau. Donc, on saute en position verticale. Et l'échelle de sortie est très confortable, donc ça c'est pareil, on remonte par l'arrière du bateau, on sort, et puis là on n'a plus qu'à faire les 4-5 mètres pour aller se déséquiper. De là on passe dans le local déshabillage, donc on se déshabille, on prend la douche, ensuite on rentre dans le local séchage, là on étend notre combinaison dans un séchoir, on ne ressort pas du tout dehors, et ensuite on passe dans le vestiaire où on s'habille, et du vestiaire on revient dans le bateau. Donc c'est très très confortable, très très fonctionnel. Une fois qu'on est dans le bateau, donc là on a le rez-de-chaussée, je dirais, du bateau, sur lequel on va trouver un atelier, le couloir, on a une petite infirmerie qui peut faire éventuellement salle de repos si quelqu'un se sent pas bien, et puis on rentre dans le grand carré où sont tous les ordinateurs et où parviennent toutes les données qui sont engrangées à la passerelle ou qui sont engrangées sous la coque du bateau par les appareils qu'on y a mis, que ce soit des sonars ou des magnétomètres ou des pénétrateurs de sédiments. Donc toutes ces données arrivent sur ce qu'on appelle le grand carré, qui est la zone de travail, qui est immense, qui doit faire entre 30 et 40 mètres carrés. C'est une très belle pièce avec une bibliothèque, des équipements pour la Wi-Fi, des équipements pour les ordinateurs. De cette salle, on ressort dans le couloir et là on arrive dans la salle à manger, qui est plus petite, donc il faut faire plusieurs services quand on est un peu nombreux à bord. On peut manger confortablement à 8, à 10 on commence à être serré, à 12 faut pas trop jouer des coudes. La cuisine. Après on a un escalier qui permet de monter à l'étage où se trouvent les chambres du second, du chef mécanicien, du commandant et du chef de mission. Et puis là, on a encore un petit escalier qui nous fait monter à la passerelle où on a tout le poste de commande du bateau avec un vitrage à 360 degrés, donc on voit partout. Et là aussi, on a des écrans sur cette passerelle qui nous montrent des images vidéo de l'ensemble du bateau, à part les zones privées. Mais que qu'on soit sur la plage avant ou sur la plage arrière, le commandant suit en direct si les ordres qu'il a donnés sont correctement exécutés. Et donc, il peut voir s'il y a un incident, s'il n'y a quoi que ce soit. Puis, bien sûr, les marins sont équipés de VHF pour communiquer entre eux. Et puis, il y a encore donc, un étage, cette fois-ci, en dessous, qui est celui des chambres des scientifiques qui embarquent à bord de l'André Malraux. Donc, il y a 4 cabines de 2, ça fait 8 personnes. On a aussi un laboratoire de restauration. Mais lui, il est dans le bateau. Il n'est pas modulable, il est en permanence dans le bateau. Laboratoire de restauration, il y a plutôt un laboratoire de stabilisation. C'est les premiers secours. Voilà, les premiers secours pour les objets. C'est-à-dire, si on a de la céramique, si on a du métal, si on a des objets frêles, du bois, des objets fragiles, on peut les conditionner. On a un frigo, comme ça on ne les met pas avec la nourriture. Donc, on a un frigo, chambre froide, pour garder le bois gorgé d'eau. On peut procéder à du dessalage, on peut travailler dans ce petit local qui n'est pas très grand, mais qui est pratique. Il y a un mélange d'expérience et d'intuition. Cette intuition, c'est pas uniquement de la chance, cette intuition, elle repose sur des expériences antérieures de ce que j'ai vu et de ce à quoi peuvent ressembler des épaves archéologiques. Je peux pas envisager de vivre loin de la mer. Je peux pas envisager de m'éloigner de la mer. Il faut que ça soit accessible dans la journée, quoi. Il faut que, pas dans la journée, en une demi-heure, une heure, pour que je puisse passer ma journée au bord de la mer. Ça, c'est clair, je ne peux pas vivre sans la mer.
Pour les passionnés d'histoire, la mer est le plus grand musée du monde. Marie-Pierre est en charge, depuis 1992, de la valorisation des biens culturels maritimes,
du littoral du Languedoc-Roussillon. Ses recherches concernent principalement l'archéologie navale, la navigation et le commerce maritime en Méditerranée, dans le monde romain. Avec de nombreuses plongées à son actif, elle œuvre à la découverte d'épaves antiques, mais aussi modernes. Elle découvre aussi deux navires de la flotte française de Napoléon Ier, mais aussi les vestiges du port de Narbonne et plus récemment une forêt sous-marine datant d'il y a 8000 ans. Retrouvez directement en ligne les découvertes fascinantes et les publications de Marie-Pierre. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, aventurière, courageuse, partie naviguer sur des voiliers à la découverte des canaux de Patagonie et du continent blanc, l'Antarctique.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.